des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour, il est 17h et c'est le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Aujourd'hui, une émission consacrée à l'errance et à la violence, au territoire que l'on fuit et à ceux que l'on atteint, à l'intranquillité de l'époque et à la condition humaine, aux frontières aussi que l'on tente de franchir pour se raccrocher un petit peu au monde, avec deux écrivains dont les livres, a priori très différents, semblent pourtant pouvoir dialoguer l'un avec l'autre quand on les lit, tant ils disent les désarrois et les brisants aussi d'une époque. Ces deux écrivains, c'est d'abord l'auteur des Âmes grises et du rapport de Brodeck, Philippe Claudel, qui publie son nouveau roman L'archipel du chien aux éditions Stock, et la jeune romancière Justine Beau, qui signe, elle, son quatrième roman déjà, Si nous ne brûlons pas, aux éditions des Équateurs. Bonjour Philippe Claudel.
Bonjour Christophe.
Prix Renaudot pour les Âmes grises, prix Goncourt des lycéens pour le rapport de Brodeck. Vous êtes écrivain et réalisateur et vous publiez avec l'archipel du chien un nouveau livre qui nous transporte sur une île volcanique que vous ne voulez pas situer ni nommer autrement que par l'imaginaire, l'archipel du chien. On reconnaît la Méditerranée à cause des capriers, des murs de pierre, du vin aussi épais et sanguin qui est produit sur cette terre battue par les flots, où vivent des personnages qui n'ont pas de nom, eux non plus, ils sont uniquement désignés comme sur la scène d'un théâtre par leur fonction, le maire, l'instituteur, le curé. Les journées semblent se ressembler sur cette île isolée, uniquement desservie par deux liaisons maritimes hebdomadaires. C'est un parfait décor pour un drame, et il arrive, le drame, par la découverte de trois corps échoués sur la plage, découverte qui vient briser le projet du maire, il voulait transformer son île en station thermale. Le mot d'ordre dans cette petite société insulaire est évidemment de faire silence, enfin évidemment quand on a des projets de cette ampleur. Les corps sont des corps d'hommes noirs, ce sont des corps de migrants qui ont tenté de traverser ce cimetière marin qui est devenu la Méditerranée. Les corps vont être abandonnés dans les profondeurs du volcan de l'île, mais bientôt un enquêteur se présente et va peut-être réveiller les consciences. Philippe Claudel, est-ce que vous pouvez revenir sur ce nom imaginaire que vous donnez à cet archipel, hein, l'archipel du chien? Le chien, étymologiquement, ça nous ramène au cynisme. Est-ce que c'est une époque que vous mettez en accusation aussi dans ce livre?
Alors, oui, on essaie, en tout cas, j'essaie d'interroger, d'interpeller à la fois l'époque et les femmes et les hommes qui vivent, c'est-à-dire nous autres. Mais sur la thématique du chien, elle a plusieurs origines. À la fois, il faut se souvenir quand même que le mot canari, par exemple, l'archipel des Canaries, son étymologie renvoie au chien. Alors, c'est pas la Méditerranée, vous me direz, c'est l'Atlantique, mais en même temps, c'est là qu'ont lieu les premiers drames de migrants qui quittent le Maroc, qui quittent les côtes du Sénégal, qui, sur des barges, essayent d'atteindre l'Europe par ce biais des îles Canaries. Donc, je me souvenais de ça, c'était au début des années 2000. On en a moins parlé, parce qu'ensuite, il y a eu l'explosion libyenne, syrienne, il y a eu Lampedusa, etc. Mais ça, c'est le premier chien, si je puis dire. Le deuxième chien, c'est l'avertissement au seuil de bien des villas romaines, c'est le Cauicanem. Attention aux chiens, c'est-à-dire ne rentre pas chez moi, sinon tu vas te faire mordre. Hein. Et voilà, donc il y avait ces réminiscences d'un lieu qu'on veut protéger de toute intrusion, cette île qui est bien sûr pour moi symbolique de notre Europe, ou en tout cas de notre monde occidental. On pourrait dire aussi que l'Amérique du Nord est une île et que Trump, avec son projet de mur, essaie de la défendre. Mais voilà, donc nous interroger sur cette espèce de clôture géographique qui nous obsède, comme si finalement, après la douceur de la fin du projet voltairien, à la toute fin du Candide, soyons heureux, cultivons notre jardin, etc., ce jardin était devenu un lieu d'égoïsme absolu, dans lequel on s'est enfermé, dans lequel on a enfermé et on a fait taire nos consciences, et un jardin qu'on veut absolument préserver de tout autre survenu, de celui qui est comme nous, mais qu'on ne veut pas avoir comme nous.
Vous parliez de Cauicanem, effectivement, si on prend le mot grec, ce que je disais, là, oui. Là on va vers le cynisme. Ça, c'est quelque chose aussi qui est présent dans cette réflexion autour du chien.
Le cynisme, je trouve que c'est une des plaies de notre société contemporaine. C'est-à-dire que, je parlais de Voltaire, là, qu'on associe souvent à cette fameuse ironie. Et Dieu sait qu'il y a eu beaucoup de travaux universitaires sur ça. L'ironie voltairienne, elle était encore malicieuse, elle était souriante, elle amenait une forme de bienveillance. On est allé au-delà.
Enfin, pas pour les ennemis de Voltaire.
Non.
Écraser l'infâme.
Distinguons l'homme et l'œuvre. Je pense que ce type était absolument infréquentable dans le quotidien. Il a, comme on le sait, essayé de nuire par tous les moyens du bord à d'autres esprits brillants qui lui faisaient peut-être un peu d'ombre, à commencer par Rousseau. Mais ça, c'est autre chose. C'est l'homme. Si on considérait les femmes et les hommes écrivains, je crois qu'on serait assez peu à sortir du lot et je ne pense pas me mettre dans les bons non plus. Mais Sur l'œuvre voltairienne, il y avait quand même le rire qui accompagnait cette ironie, qui pouvait être un rire grinçant, mais qui pouvait être aussi un rire bienveillant. Il y avait de l'humanité. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on vit dans une époque cynique où il est bon de se moquer de tout, mais de s'en moquer à vide, comme si finalement dénigrer était le but ultime et que le mot blessant était l'ultima verba. Quoi. Alors, ça fait des ravages dans notre société, dans notre conception même du politique. Regardez comment on a dévalorisé le politique, c'est-à-dire la pensée de la cité. Regardez comment aujourd'hui on considère nos femmes et nos hommes politiques, sans rentrer même dans les affaires qui les affectent, mais il y a immédiatement maintenant une suspicion, une sorte de condamnation d'opprobre jetée sur celles et ceux qui essayent de penser, de diriger la cité. Quoi. Et là, on en a un exemple, puisque ce qui m'intéressait dans les figures que vous avez rappelées, c'était d'avoir des grandes figures, celui qui incarne le politique, le maire, celui qui incarne le savoir, l'instituteur, la science, la religion, etc.
Et comme des allégories, on y reviendra. Bonjour Justine Beau.
Bonjour Christophe.
Voilà, en face de Philippe Claudel, vous êtes écrivain, réalisatrice aussi, j'ai vu.
J'essaye.
Ouais.
Je commence.
Voilà, oui. Pas encore de premier film.
Ça va venir.
Ouais. Et donc, pour l'instant, qu'est-ce qu'il y a eu au niveau cinéma ?
J'ai beaucoup travaillé en documentaire, en fait. J'ai passé quelques années à New York où j'ai travaillé comme documentariste et du clip aussi. Donc, la mise en image de musique qui m'intéresse beaucoup.
Non, c'est drôle, finalement, ouais, encore un point commun.
Si je puis me permettre, elle ne nous en pas le dire, mais enfin, on peut voir sur travail sur Internet, Justine, comme je suis allé le voir, justement, voir les clips, les documentaires qui sont disponibles.
Bien.
Ah, bah, c'est intéressant, mais de toute façon, toutes les images sont intéressantes. Et en plus, quand c'est fait par quelqu'un qui, à la fois, travaille aussi l'écriture, ça m'intéresse encore plus.
L'écriture et l'image. Alors, dans votre nouveau livre, Si nous ne brûlons pas, vous retracez l'itinéraire d'une jeune femme qui porte votre prénom, Justine. On y revient. Vous évoquez notamment Sade. Effectivement, on pense à Sade quand on prononce le prénom Justine.
Inévitablement.
Justine est née dans une ville de province, au bord de la mer d'ailleurs, une autre mer que celle de l'archipel du Chien. Elle n'a de cesse de vouloir s'extraire de son milieu, du milieu où elle a grandi, pour étudier, pour affirmer sa liberté de choisir une vie, la vie qu'elle entend mener. Mais où qu'elle aille, elle va de désillusion en désillusion, à l'image de l'infortunée héroïne de Sade. Et elle semble, elle, lancée dans une forme d'errance, dans une forme de migration sans fin, d'un pays à l'autre, d'un milieu à l'autre, la rage au ventre, en essayant de déjouer les frontières. Le mot de territoire revient constamment dans votre livre. Elle va en Syrie, elle va aux États-Unis, il est question de Paris aussi. Et dans chacun de ces lieux, alors on parlait de cynisme avec Philippe Claudel, c'est plutôt la même hypocrisie. Alors là, on est dans une étymologie qui nous ramène à la comédie, au théâtre, hein, encore une fois. Donc encore un point commun entre vous deux. Qu'on soit finalement fonctionnaire français en Syrie ou producteur de films à New York, voilà, l'hypocrisie, l'hypocritesse est toujours là. Le mot territoire, je disais, revient tout le temps dans ce roman de formation très rageur, et je vous cite Justine Beau. À l'épreuve du vide, j'appris à ne me fier qu'au territoire. Il est la seule matière, l'unique élément de la vie des hommes. Je me méfie du récit des origines, des sociologies, des familles. J'accorde peu de crédit au mythe de l'éducation et aux affres du travail, mais je crois absolument à la Bible que nous livrent les territoires. Pourquoi ce mot de Bible qui, alors là, c'est le livre, hein, on fait de l'étymologie aujourd'hui.
Oui, mais parce que justement, ce qui m'intéressait, c'était d'aborder le territoire comme une matière. C'est aussi une façon de parler de l'écriture, évidemment, parce que c'est comme ça que je vois l'écriture, comme une sculpture, une matière qu'on amasse et dans laquelle on irait tailler un texte. Et le territoire, justement, il m'intéresse dans cette perspective-là, c'est-à-dire quand on quitte un territoire, qu'on croit le quitter, en réalité, il ne vous quitte pas tout à fait, il continue de vous habiter, mais on va aller y sculpter une identité. Soit on va se délester complètement de cette matière-là et on va chercher à en amasser une autre en allant toujours dans d'autres territoires. Mais finalement, on se laisse quand même façonner par tous ces lieux qu'on a pu arpenter et on ne les quitte jamais tout à fait. Et même quand on en aborde de nouveau, on continue toujours à se laisser emporter par tout ce qui nous entoure.
C'est le territoire qui nous habite plutôt que nous qui habitons le territoire.
Je crois, en tout cas, ce qui m'intéressait, c'était de voir à quel point l'endroit, et je crois que ça rejoint aussi ce qui se passe dans votre livre, c'est-à-dire comment tous ces lieux dans lesquels on se laisse parfois enfermer, dans lesquels on essaye aussi d'être libre, comment ils peuvent agir sur notre intimité.
Philippe Claudel.
Oui, oui, non, mais moi, j'écoute avec grand intérêt parce que c'est au cœur aussi de ma réflexion, j'allais dire, d'homme et de romancier, d'écrivain. L'écrivain, j'ai toujours eu l'impression que c'était vraiment, à proprement parler, un géographe, c'est-à-dire quelqu'un qui écrit la Terre. Il y a le très beau mot de Bachelard qui dit que la géographie, c'est l'art de rêver la Terre. Et il me semble que le romancier, c'est celui justement qui s'intéresse à la Terre. Et la Terre, c'est à la fois le lieu sur lequel on pose les pieds, mais c'est aussi l'homme qui pose ses pieds-là.
Et la matière dont parle Justine.
Et donc, cette notion de territoire... Je fais un petit peu des coqs à l'âne, mais vous voyez, il y a un mot que j'adore dans le domaine vigneron viticole, c'est le mot climat en Bourgogne. Mm-hmm. Parce que c'est un mot qui est à la confluence à la fois de la météorologie, du sol, du travail des hommes, de la délimitation en parcelles. Et ça, je trouve que c'est fondamentalement ce qui nous fait.
Et des lumières, vous parlez de Voltaire, là, je pensais à Montesquieu, et la théorie des climats.
Bien
voilà,
sûr,
qui nous ramène à ça aussi.
Bien sûr.
Justine Beau, je disais que le mot de territoire revenait sans cesse, mais est-ce que c'est pas, dans votre texte, est-ce que c'est pas d'abord celui d'époque aussi qu'il faudrait mettre en avant? Comme chez Philippe Claudel, est-ce que c'est aussi une époque que vous mettez en accusation dans ce livre, une époque de chien?
Oui, alors la mettre en accusation, je ne sais pas, parce que je me méfie aussi un tout petit peu de ce qu'on a souvent tendance à dire, voilà, ceci est un fait de l'époque, l'époque a créé cela, l'idée que, par exemple, je parle du désenchantement, l'idée que le monde aurait un jour été enchanté et que, comme par miracle, aujourd'hui il est désenchanté, je suis pas sûre que le monde ait un jour été enchanté.
Dans les mythes, oui, dans l'âge d'or, quoi, voilà.
En tout cas, c'est-à-dire que je pense que chaque époque a ostracisé certains individus de cet enchantement, et donc l'enchantement a toujours été, de toute façon, un privilège. Donc je pense pas que le livre, en tout cas ce que j'ai essayé d'écrire, n'était pas une dénonciation d'une époque. Mais en revanche, c'est vrai que j'ai essayé de retranscrire des humeurs dont j'ai l'impression qu'elles m'ont habité tout au long de ma courte vie. Mmh. Et donc, effectivement, je reviens un petit peu sur les années
les auditeurs,
dans lesquelles j'ai grandi.
J'ai pas mentionné, vous avez quel âge, Justine Beau?
J'ai 28 ans.
Voilà, 28 ans, quand
oui.
même.
Voilà. Oui. Quand
et,
même. Alors, en
et
même
qu'est-ce
temps,
que c'est
que
ces humeurs dont vous parliez, justement? Est-ce que vous pouvez préciser un peu?
J'aime bien d'abord le mot humeur parce que ça me paraît plus sincère en fait de parler d'humeur que de parler de faits, d'événements, la perception que j'ai eue de certaines choses. Et par exemple, dans l'enfance, alors il s'agissait des années 90, je parle de la catastrophe de Tchernobyl, je parle aussi beaucoup plus tard des attentats de Karachi en 2002 qui m'ont touchée assez fortement dans l'enfance. Et là encore, on en revient au territoire, c'est-à-dire la manière dont un fait à l'autre bout du monde a pu vous toucher alors que vous n'avez a priori rien à voir avec l'endroit où ça s'est passé.
Et on parlait même des nuages qui s'arrêtaient à la frontière,
bien sûr,
de Tchernobyl.
Ça, c'est très... et à la fois, on parlait du rire tout à l'heure, ça peut être aussi un petit peu drôle quand on y repense.
Oui, mais ce qui est intéressant, c'est ce que vous venez de dire aussi sur ce qu'on pourrait appeler les effets papillons intérieurs. C'est-à-dire qu'il y a des événements comme ça qui se produisent très très loin de nous, qui a priori n'ont pas un impact ni même sur notre vie quotidienne, ni même sur la situation de notre pays socio-économique, mais en même temps qui, parce que soudain il y a une sorte d'accroche qui se fait entre notre émotion et ce qui a eu lieu, va fondamentalement nous guider et nous faire. Donc ces territoires, c'est aussi des nouveaux territoires aujourd'hui, parce que ce qui a changé par rapport à des époques antérieures, et je suis d'accord avec vous sur l'enchantement, c'est-à-dire que c'est le passé qui est enchanteur, c'est-à-dire que le récit du passé réenchante le passé. Mais
Le présent.
Et le présent, bien sûr, et le nourrit d'une forme de nostalgie qui nous fait toujours penser qu'avant c'était mieux, etc. Alors qu'avant, évidemment, ce n'était jamais mieux. Mais ce que je voulais dire, c'est que la différence entre jadis et aujourd'hui, c'est peut-être sur cette recomposition du monde dans la mesure où aujourd'hui tout nous arrive extrêmement rapidement. Nous avons, par tous les instruments qui sont dans nos poches ou dans nos sacs ou sur nos bureaux, la possibilité de recomposer une géographie mondiale à la carte, c'est-à-dire à la fois vaste et aussi extrêmement personnelle. Et que tel ou tel événement qui ne va pas toucher notre voisin va au contraire nous percuter profondément.
Mmh. Oui, et ce qui change aussi, c'est la perception qu'on a du monde, c'est-à-dire le fait de savoir qu'on peut aller d'un endroit à un autre en très peu de temps, l'immédiateté que nous offre aussi, j'ai pas envie de faire de grandes phrases sur Internet et sur que ça a changé, mais malgré tout, ça a changé ça aussi. C'est-à-dire qu'on sait en temps direct à quelques exceptions près, mais on peut savoir quand même beaucoup de choses qui pourtant ne nous impactent pas tout de suite dans notre quotidien.
Et ça a changé aussi, beaucoup d'écrivains en parlent, la manière aussi d'écrire des romans, de produire des textes, cette capacité aussi parfois d'accéder à une bibliothèque totale ou d'aller observer certains lieux sans y aller aussi.
Oui, alors on est toujours mauvais juge de soi-même, moi j'arrive pas à me rendre compte, qui suis quand même plus âgé que Justine, si ça a fondamentalement modifié mon écriture depuis quelques décennies. Ce qui est certain, c'est que quand j'ai fait mes études universitaires et mon travail de doctorat, j'utilisais des méthodes qui étaient encore celles finalement du 19e siècle. C'est-à-dire que quand j'avais besoin d'un document, j'écrivais une lettre à une bibliothèque à l'étranger, j'attendais un certain nombre de jours, voire de semaines, et on m'envoyait une copie. Bon, voilà, ça prenait beaucoup de temps. Aujourd'hui, si j'avais à faire le même travail, en un clic, j'accède à une sorte de bibliothèque mondiale. Mmh. Et ça, sur le plan du savoir, c'est absolument fascinant. C'est même vertigineux.
Vos deux récits sont placés quand même, parliez, c'est drôle, d'enchantement, de désenchantement, mais sous le signe, en tout cas, de la désillusion. Je vous cite Justine Beau. « À l'époque, je ne savais pas tout cela. Je croyais encore idiotement à ce mot écrit sur le fronton de l'école. Égalité. Si je vous lis Philippe Claudel, je tombe par exemple là-dessus. Donner du feu, du fer et un marteau à un homme. Il va en deux temps trois mouvements forger une chaîne pour attacher un autre homme qui lui ressemble comme un frère et le tenir en laisse ou une pointe de lance pour le tuer plutôt que fabriquer une roue ou un instrument de musique. La roue et la trompette, ça arrive bien plus tard, beaucoup plus tard après la chaîne et la pointe de lance. Entre-temps, on s'est déjà beaucoup massacré. » Est-ce qu'il y a un rôle de l'écrivain qui serait de pointer un peu cette anti-bienveillance de l'être humain, de pointer les temps noirs de l'époque encore dont on parlait, ou de certains territoires?
En tout cas, le ou les questionner. C'est-à-dire que c'est vrai que ce que vous venez de lire, ce petit extrait, c'est, si je l'exprimais avec une autre image, c'est pourquoi dans cette espèce de voiture dans laquelle on est placé et qui est sur une ligne droite, pourquoi la tendance est toujours que la voiture aille vers le fossé? C'est-à-dire pourquoi on n'arrive pas à tenir le volant droit? C'est quand même très très bizarre. C'est-à-dire que j'essayais là, dans ce que vous avez lu, de prendre un exemple simple, mais c'est vrai que l'homme, dès qu'il a inventé quelque chose, il invente aussi la façon la plus nocive de s'en servir.
Mais vous croyez que le roman, justement, aurait pas des propriétés thaumaturgiques, mais en tout cas, les propriétés quand même de réveiller les consciences? Je vous cite encore, on faisait semblant de ne pas voir les migrants afghans et pakistanais planqués au fond du terrain vague, faisant face au port, leurs tentes derrière les barbelés. Il est question de vos personnages disent, bah oui, les migrants, on les a vus à la télé. C'est quand même un monde où le spectacle de l'horreur, des drames humains sont permanents. Et finalement, malgré ça, alors que c'est présent, vous écrivez sur le terrorisme, Justine Beau, par exemple, sur les attentats de novembre 2015. Vous, Philippe Claudel, sur ces migrants, même si vous brouillez les effets géographiques, il faut que le roman continue à traiter ces choses-là. En tout cas, vous le voulez, vous?
Écoutez, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on vit à une époque, on vient de le dire, qui est extrêmement documentée et qui nous documente en temps direct. Par rapport à d'autres périodes plus lointaines, le massacre des Arméniens, le génocide, la Shoah, etc., on l'apprend à mesure, quoi. Et après, et les documents sortent après l'événement. Là, aujourd'hui, tous les événements tragiques, ils sont documentés en temps direct. Pour autant, est-ce que ça change vraiment quelque chose? Est-ce que soudain, il y a une prise de conscience générale ou même individuelle en disant « mais c'est pas possible que ça continue, il faut faire quelque chose au niveau individuel, gouvernemental, sociétal, tout ce que vous voulez ?» Non. Donc, c'est là où je me dis que nous, très modestement, romanciers, écrivains, poètes, artistes, on a peut-être un petit rôle à jouer en ayant foi justement dans cette autre approche, qui n'est pas une approche documentaire, mais qui est une approche interprétative, poétique, où la langue est centrale.
Empathique, vous diriez aussi?
Empathique, oui, moi, en tout cas pour moi, en tout cas je le prends à mon compte. C'est vrai que c'est quelque chose avec lequel je travaille beaucoup, l'empathie. Et en même temps, je me dis que l'avantage et l'intérêt et la puissance aussi du texte littéraire, c'est le temps qu'il se donne et le temps qu'il donne. On n'est pas dans l'immédiateté, on n'est pas dans la consommation instantanée, on est dans le temps de la pensée. Et la pensée, ça prend du temps, justement.
Justine Beau,
oui,
sur ce point-là.
Oui, c'est exactement ce qui me venait à l'esprit quand vous disiez tout ça. C'est-à-dire que ce qui change tout avec le roman, et pas seulement le roman, le temps de l'écrit est infiniment plus long, et surtout, c'est un détachement. Donc, ça permet aussi de voir tout ce qui peut se passer dans le monde, d'abord d'une manière différente, à l'aune de la façon dont un personnage peut le percevoir. On se met à la fois à distance, en même temps on change complètement de perspective, et surtout on prend le temps de réfléchir, à la fois quand on écrit ou quand on lit. Et c'est ça qui, à mon avis, change tout. Encore une fois, je pense pas que ce soit quelque chose de complètement nouveau. Pour revenir sur ce que vous disiez sur le spectacle, moi par exemple dans le livre, je parle beaucoup du rite du pharmakos, qui était ce rite sacrificiel dans la Grèce antique. On peut trouver des résurgences de ça aujourd'hui, simplement quand on peut avoir le temps d'y réfléchir. On peut être effectivement plus dans l'empathie.
Le roman comme catharsis, puisque vous parlez beaucoup, le théâtre, enfin, on va le voir avec votre livre, est très très présent dans ce nouveau roman.
Oui, catharsis, mais enfin, Marcone, Poison et Remède, enfin tout ça, ça m'a toujours fasciné et extrêmement intéressé. Alors, tant qu'on parle des anciens, enfin des premières voix, si je puis dire, occidentales, c'est vrai que moi j'ai été très marqué par le théâtre d'Eschyle, par exemple. C'est-à-dire une version extrêmement encore brute. Hein. C'est pas Sophocle, c'est pas Euripide. Eschyle, c'est, on a l'impression qu'on est comme ça, sur une terre
c'est
qui est encore en train de trembler, avec cette lave en dessous.
Ctonienne.
Voilà, absolument ctonienne. Et ce primitivisme m'a toujours vraiment fasciné. Alors, que ce soit chez Eschyle, ensuite chez Virgile, chez Dante, plus proche de nous, chez Giono. Giono qui, à mon avis, a toujours été un auteur très connu, mais sous-estimé par rapport à ses puissances à l'œuvre.
Je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, on va aller un peu vers Eschyle et cet archipel du chien. En tout cas, Eschyle, on le verrait bien dans cette île, Philippe Claudel. On écoute d'abord votre choix musical. Vous avez choisi When de Lisa Ekdahl et Anne Brun.
Vous écoutez France Culture, Le Temps des Écrivains, par Christophe Onodibio.
Keep an eye on myself all the time. I only close one eye when I sleep. I keep the other one open all the time. Even when you seem to think my sleep is deep.
De Lisa Ekdahl et Anne Brun, c'est le choix de Philippe Claudel qui publie L'Archipel du Chien chez Stock. Pourquoi ce choix musical, Philippe Claudel ?
Écoutez, ça n'a rien à voir avec les thématiques du livre, mais en tout cas, c'est une musique qui m'a accompagné pendant son écriture ou en tout cas pendant de longs moments. J'aime beaucoup l'univers de ces chanteuses venues du Nord, elles sont scandinaves, j'aime beaucoup leur voix, leurs arrangements. Après, je suis quelqu'un qui écoute peu de musique, en fait. C'est-à-dire que quand j'écris, je n'écoute pas. J'écoute entre les moments d'écriture. Mais quand on me demande toujours des choix musicaux, j'ai toujours le désir de proposer le silence. Parce que c'est finalement cette musique-là, qui est un faux silence, hein, que j'écoute le plus.
Mais vous vivez comme avec la musique. C'est pas forcément la musique avec laquelle vous écrivez. Non, d'ailleurs, souvent, les écrivains ne peuvent pas écrire en musique ou constamment, quoi.
À part, vous voyez, je sais qu'il y a très longtemps, j'ai écrit un roman qui s'appelle J'abandonne en écoutant toujours le même morceau de Bach, du clavier bien tempéré. Mais, ou alors, si on écoute des musiques comme celle de Philip Glass, qui sont répétitives, donc qui permettent de mettre l'esprit dans une espèce de disponibilité à l'écriture, mais autrement, pour le reste, c'est compliqué.
Et vous, Justine Beau, hein, sur le rapport à la musique, on écoutera tout à l'heure votre choix musical, mais dans l'écriture, il y a un...
Toujours.
En permanence.
Mais par contre, c'est effectivement difficile d'écouter en écrivant. Ouais. Alors, j'écoute aussi Philip Glass, j'écoute beaucoup John Cage aussi. Donc c'est des morceaux très déstructurés, très abstraits, pas de paroles, donc ça déconcentre pas. Mais par contre, entre les moments d'écriture, j'écoute énormément, c'est nécessaire.
La transe. Après, notamment, je disais, Philippe Claudel, les âmes grises ou le rapport de Brodac, donc vous publiez ce nouveau roman, L'Archipel du Chien, qui n'est pas sans rapport avec ces deux livres. Vous nous transportez sur une île volcanique de cet archipel imaginaire. Vous vivez des personnages sans nom, mais avec des fonctions, le maire, l'instituteur, le curé. C'est une île isolée qui est vraiment relié au continent par une liaison maritime deux fois par semaine, mais qui va se retrouver mêlée au monde, malgré elle, lorsqu'on découvre sur la plage trois corps noirs échoués, trois corps de migrants qui, évidemment, peuvent compromettre le projet du maire de transformer son île en station thermale. Il y a un mot d'ordre qui se répand dans cette petite société insulaire, faire silence. On va cacher le corps de ces hommes. Et puis surgit dans ce décor un enquêteur, un personnage qui surgit pour peut-être réveiller les consciences qui se sont endormies dans cette île. Il est question d'exclusion, il est question d'altérité, il est question du destin aussi. Les embarcations des migrants ne sont jamais décrites en fait dans votre roman. On les imagine bien en fait tout autour de cet archipel passant. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais comment ce motif, même si c'est un motif extrêmement dramatique et un motif d'actualité, mais ce motif du migrant échoué, alors qui est un motif mythologique aussi. On pourrait revenir à la Méditerranée et à Ulysse tombant presque dans les bras de Nausicaa. Comment s'est-il imposé ? Est-ce que c'est ce motif-là qui a conditionné l'écriture de ce roman ? Est-ce que tout s'est construit autour de ça ?
Alors, c'est vrai qu'on peut reparler de l'Odyssée, parce que c'est quand même la première errance comme ça méditerranéenne, tragique et enchantée à la fois. Cette thématique, en fait, de l'autre m'a toujours fasciné, et celui, justement, qui quitte un lieu où il n'est plus le bienvenu, pour des raisons économiques, pour des raisons de guerre. En 2005, je publie un livre qui s'appelle La petite fille de Mussolini. C'est un migrant avant l'heure. Mussolini, il a tout perdu. Il arrive sur un rivage qui n'est pas le sien, et puis il essaie de reconstruire sa vie. Et dans beaucoup de livres, que ce soit L'arbre du pays Toraja ou Inhumaine, encore il n'y a pas très longtemps, ou dans des textes que je fais pour des associations, j'essaye de réfléchir à cette thématique de l'autre qui arrive. C'est aussi un motif cinématographique, c'est-à-dire que c'est le western quand même, hein. C'est l'étranger qui arrive dans une petite ville de l'Ouest américain où tout va bien, et soudain, sa seule présence va faire exploser. C'est aussi le film avec Spencer Tracy, Un homme est passé, enfin voilà. Donc il y a ce qui est assez curieux dans la culture humaine, enfin individuelle, dans sa culture, c'est de voir tous les emprunts qu'on peut faire et toutes les racines qu'on a. Donc, certaines peuvent paraître prestigieuses, d'autres renvoient à des arts qui sont de l'entertainment, mais en même temps, c'est nous, quoi. Ça fonctionne comme ça. Sur ce projet romanesque que j'ai commencé il y a peut-être 4-5 ans, j'ai connu trois départs. C'est-à-dire que je partais de cette idée, donc un lieu préservé, trois cadavres qui s'échouent sur une plage. Mais la première écriture m'avait amené en Patagonie. Donc j'étais dans une géographie qui n'avait rien à voir avec celle-là, parce que je voulais décaler vraiment le récit vers une géographie un peu fantastique, en disant « mais c'est pas possible que des migrants s'échouent en Patagonie ». Et donc ça donnait quelque chose, me semblait-il, d'intéressant. J'ai écrit une centaine de pages, c'était pas des pêcheurs, c'était des bergers qui étaient près de l'extrême sud de ce continent sud-américain.
Qu'est-ce que vous avez fait changer alors, et revenir
ça,
finalement?
Ça ne marchait pas, c'est-à-dire que j'écris 100 pages et j'avais un sentiment intérieur qui fonctionnait pas. J'ai réécrit complètement, en localisant cette fois-ci, très précisément, l'action à Pantelleria, l'île justement des Capriers, des vins, etc. Et j'ai écrit 100 pages avec des références très nettes à cette Italie insulaire, à ce climat, à cette langue. Et là, je me suis dit, mais non, je suis en train de faire fausse route aussi, parce que je suis dans une géographie réelle, et je ne suis pas un géographe, je ne suis pas un journaliste, je ne suis pas un historien des lieux, donc ça ne va pas. Et après, soudainement, je me suis dit, mais voilà, inventons complètement
brouillon,
c'est
en fait,
cet archipel, tout en donnant quand même des éléments qui permettent au lecteur de dire « ah bah oui, c'est là, mais en même temps, c'est pas tout à fait là ». Donc, cet auteur me propose une autre réflexion.
Est-ce que l'actualité, notamment cette image que tout le monde a vue, du petit garçon face contre terre, échoué, ce corps d'enfant, est-ce que cette image-là, vous parliez de cinéma, on parlait d'image tout à l'heure aussi avec Justine Beau, qui est face à vous, écrivain et bientôt cinéaste, est-ce que cette image-là est venue percuter ce projet? Brouiller, on a compris en fait, il fallait brouiller les références. Est-ce que ces images-là sont entrées en résonance ou...
Très honnêtement, non. C'est une image qui a, je pense, été vue par des milliards d'êtres humains, qui a ému des milliards d'êtres humains, et qui n'a eu aucune incidence. Aucune. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que cette image, effectivement, elle était symbolique de ce chaos, de cette atrocité, de cette tragédie qui fait qu'un enfant meurt sous les yeux de ses parents. mais en même temps, ça n'a rien produit comme effet positif, enfin comme guérison, etc. Si je retenais une image, si vous voulez, qui elle m'a peut-être a nourri quand même le livre, c'est une, mais il y en a plusieurs. C'est ces photographies qui montrent des touristes sur une plage, en train de prendre le soleil, de lire une revue légère, et soudain, des migrants passent à côté d'eux, viennent de sortir de leur barge. Et là, on a une confrontation incroyable sur un usage différent d'un même lieu. Cette Mare Nostrum, qui est à la fois le cimetière marin, mais Valérie ne pensait pas à ça, malheureusement, enfin heureusement.
Les poètes pressentent les choses.
Et, oui. Ouais. Et en même temps, le lieu de plaisir et de divertissement.
Je voudrais, Philippe Claudel, si vous en êtes d'accord, qu'on vous entende lire le début, l'incipit, en fait, de ce nouveau livre. On vous écoute.
L'archipel du chien. Vous convoitez l'or et répandez la cendre. Vous souillez la beauté, flétrissez l'innocence. Partout, vous laissez s'écouler de grands torrents de boue. La haine est votre nourriture, l'indifférence votre boussole. Vous êtes créature du sommeil, endormie toujours, même quand vous vous pensez éveillée. Vous êtes les fruits d'une époque assoupie. Vos émois sont éphémères, papillons vite éclos, aussitôt calcinés par la lumière des jours. Vos mains pétrissent votre vie dans une glaise aride et fade. Vous êtes dévorés par votre solitude. Votre égoïsme vous engraisse. Vous tournez le dos à vos frères et vous perdez votre âme. Votre nature se fermente d'oubli. Comment, les siècles futurs, jugeront-ils votre temps? L'histoire qu'on va lire est aussi réelle que vous pouvez l'être. Elle se passe ici comme elle aurait pu se dérouler là. Il serait trop aisé de penser qu'elle a eu lieu ailleurs. Les noms des êtres qui la peuplent ont peu d'importance. On pourrait les changer, mettre à leur place les vôtres. Vous vous ressemblez tant, sortis du même inaltérable moule. Je suis certain que vous vous poserez tôt ou tard une question légitime. A-t-il été le témoin de ce qu'il raconte? Je vous réponds oui. J'en ai été le témoin, comme vous l'avez été, mais vous n'avez pas voulu voir. Vous ne voulez jamais voir. Je suis celui qui vous le rappelle, je suis le gêneur, je suis celui à qui rien n'échappe, je vois tout, je sais tout, mais je ne suis rien et j'entends bien le rester. Ni homme ni femme, je suis la voix simplement, c'est de l'ombre que je vous dirai l'histoire.
Merci Philippe Claudel pour cet extrait de L'archipel du chien. Vous parliez d'Eschyle tout à l'heure et de ces grands textes voilà, des temps anciens du théâtre antique. On a l'impression d'entendre un cœur de tragédie en fait.
Oui, on en revient à ces influences majeures. Il y a le cœur, le chef du cœur, le coryphée. Le cœur dans la tragédie antique, c'est cette espèce de conscience où c'est l'âme de la ville, c'est la pensée parfois morale. En tout cas, c'est un verbe extérieur qui met en scène l'action, qui la juge, qui juge les protagonistes et qui se retire et qui intervient de temps en temps, ce qui est le cas dans ce livre. C'est-à-dire qu'on a cette voix au départ, mais après cette première personne disparaît jusqu'à un moment ou beaucoup plus tard où elle réapparaît.
Comment justement on évite la morale? Vous avez prononcé le mot, quand on traite justement de sujets pareils, hein, le drame des migrants, même si vous brouillez tout ça, mais en tout cas, essentiellement on est là-dedans. Quand on vous lit comment les siècles futurs jugeront-ils votre temps, évidemment le lecteur se prend ça et réfléchit aussi. Comment on évite la morale, ou est-ce qu'il s'agit d'ailleurs de ne pas l'éviter, et pourquoi pas faire un peu de morale quand on est romancier?
Alors, je trouve qu'on est, de toute façon, une époque qui manque énormément de morale. Hein. Donc il faut faire le distinguo entre être moral, être moralisateur. C'est-à-dire que essayer de tenir son texte sur une sorte d'arête effilée qui est l'acuité morale, et en même temps, ne pas basculer vers une pensée moralisatrice qui accuserait tel ou tel, à commencer par le lecteur, etc. Donc voilà, c'est une forme à la fois d'exigence et d'exercice d'équilibre. Moi, je ne suis, en tout cas en tant que moi-même Philippe Claudel, je ne suis rien ni personne pour juger qui que ce soit. Donc j'essaie de proposer des situations. J'envisage chaque roman, moi, comme une expérience médicale, ou en tout cas chimique. C'est-à-dire que je mets en place des ingrédients. C'est une lointaine réminiscence du très mauvais bachelier scientifique que j'ai été, mais j'aimais bien, comme ça, dans les éprouvettes, mélanger des produits, puis regarder ce qui se passe. Et en l'occurrence, maintenant, quand j'écris, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que, voilà, je laisse trois corps sur une page, que va-t-il se passer? Quelles sont les réactions des uns et des autres? Quels sont les enchaînements?
Précisément, les thèmes de l'identité et de la communauté, qui étaient déjà dans le rapport de Brodeck, réapparaissent ici. Il y a cet instituteur qui, lui, celui qui a du mal, finalement, à oublier. Il veut pas rentrer dans l'espèce de combine morale que les autres lui proposent. Et puis ce commissaire qui apparaît, voilà, cet enquêteur, ça rappelle l'autre, en fait, qui était assassiné par les villageois dans le rapport de Brodeck, des Anderer. De la même façon, les personnages ne sont désignés que par leur fonction dans la communauté. C'est presque des allégories, en fait, on a l'impression. Est-ce que cette île, le fait que vous avez choisi aussi une île, vous sert dans cette démarche de laboratoire qu'est votre fiction à l'œuvre, en fait?
Oui, en tout cas, moi, je m'en suis servi, ça a nourri mon excitation à écrire, parce que cette île, en plus, dominée par un volcan qui semble endormi, mais qui commence un peu à se réveiller, c'est comme si vous étiez en cuisine avec une casserole sur le feu et puis que vous jouiez avec le thermostat en le poussant un petit peu et en voyant ce qui va se produire, quoi. Donc, il y avait à la fois une circularité géographique, une petitesse. Moi, les îles, personnellement, m'angoissent extrêmement fortement. Et en même temps, elles me fascinent parce que quand on voit la littérature qui en émerge...
C'est le Lorrain qui parle.
Oui, c'est voilà. C'est l'être. Voilà. Plus que le Lorrain, c'est l'être continental. C'est-à-dire que ce qui m'a toujours... On revient à la géographie. Ce qui m'apaise dans ma vie quotidienne, c'est de me dire, tiens, je peux prendre ma voiture et sans rien demander à personne, je peux aller jusqu'à Pékin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire de vivre sur un continent immense.
Prendre un bateau,
ça.
Puis après aller jusqu'à Pékin.
Oui, mais c'est plus compliqué. Enfin, je sais pas. C'est... Donc, je
nous
ne suis cerné
connu
par
les bords de mer qui ont grandi près de
voilà,
la mer.
Justine
Beau. C'est un espace très angoissant, la mer. Moi, ça m'a toujours fait très, très peur. Ça m'intéresse beaucoup plus de prendre un avion que de prendre un bateau, quoi, parce que on peut sombrer.
On peut toucher les étoiles aussi quand on est...
Oui, mais donc dans la mer, on peut toucher le fond. C'est ça qui me fait peur.
Je ne sais pas si vous avez la même angoisse, mais moi, ce qui m'angoisse, c'est... Pourtant, j'adore nager, je passe ma vie à nager, mais je ne vois pas ce qu'il y a en dessous de moi dans la mer.
Oui.
C'est-à-dire que c'est inconnu profond. Et en même temps, c'est la même chose dans l'acte d'écriture. C'est-à-dire qu'on est au-dessus d'une sorte de profondeur, on ne sait pas si on a pied ou si au contraire il y a 1000 mètres, et on va essayer de plonger quand même pour ramener quelques éponges, quelques coraux, quelques éclats de verre.
Est-ce qu'on fait toujours le même livre, Philippe Claudel? Je dis ça, pas évidemment formellement, mais dans, je parlais là des thématiques qui réapparaissaient, vous parliez de haut fond et de plongée, qui semblent revenir finalement du fond de votre imagination ou de votre morale à vous d'ailleurs, morale d'écrivain.
Selon les moments et selon les temps, les humeurs, le vieillissement aussi, parce que c'est vrai que moi j'ai 56 ans, j'ai commencé à écrire quand j'étais gamin, donc évidemment il y a eu différentes périodes d'écriture, mais fondamentalement les thèmes obsessionnels sont quand même relativement les mêmes. Après, ce qui change, c'est les approches, c'est-à-dire que j'essaye toujours sur ce mode expérimental, parfois je vais utiliser vraiment l'humour acerbe, le conte satirique, comme c'était le cas dans Inhumaine, le livre précédent, qui est extrêmement dérangeant, où volontairement je maniais une matière explosive, dans un enfin, je veux dire, une construction romanesque un peu atypique. Et là, j'ai eu envie de revenir sur autre chose, sur une autre forme romanesque, avec un peu les mêmes ingrédients tout de même, en utilisant aussi des techniques que j'aime beaucoup. C'est-à-dire que moi, j'aime bien le mélange des genres. J'adore utiliser des espèces d'architecture de romans policiers ou de romans à suspense. User aussi, on l'a abondamment dit, mais de références mythologiques.
Et le dispositif du théâtre. D'ailleurs, les personnages le disent. Hein. Alors, qu'en dites-vous? Nous sommes au théâtre, non. C'est presque qu'il y a de plus, pas choquant, mais étonnant d'en suivre, c'est que même votre commissaire, votre enquêteur, celui qui est là pour réveiller les consciences, au fond, utilise, vous parliez de Voltaire quand on a commencé l'émission, utilise l'ironie. Alors qu'en dites-vous, nous sommes au théâtre, non. L'ironie, la distance énorme, est presque parfois une certaine conception très tragique de l'existence humaine, je le cite. Vous les avez vus dehors, l'arc se tend. J'aime les foules quand elles sont ainsi chargées d'électricité, elles deviennent imprévisibles, tout peut alors arriver. Venez donc les contempler, des fauves dans la fosse qui attendent la distribution de viande. Aucun ne voudrait la rater et chacun espère ramener son morceau. C'est magnifique.
Oui, alors la différence entre ce personnage et les autres, c'est que les autres, même s'ils commettent des actes qu'on pourrait condamner au nom de cette morale dont on parlait tout à l'heure, ce sont quand même des êtres qui sont habités par une certaine espérance en l'humanité, ou en tout cas qui ont foi en une forme d'humanité. Ce commissaire, c'est un nihiliste, c'est un anarchiste de l'âme, c'est quelqu'un qui est absolument désillusionné. Il a un rapport aussi à la lecture qui est très malarméen. La chère Étrige, j'ai lu tous les livres, c'est-à-dire que plus rien ne l'intéresse. Ses bibliothèques ne sont, quand il envoie une chez le docteur, il dit « à quoi ça vous a servi ?» Tout ça, à rien du tout. Donc il est au-delà d'une forme d'espérance, il est au-delà de ce fameux bien et mal, il est dans la désillusion totale et dans la tristesse. C'est pour ça qu'à un moment d'ailleurs, il s'évapore, il se dissout. son destin dans le livre fait que soudain ce personnage disparaît. Et
c'est pour ça que vous citez Leopardi en exergue, les deux exergues. Les derniers mots écrits par Arthur Rimbaud. Dites-moi à quelle heure je dois être transporté à bord.
Ouais, ça c'est la belle lettre qu'il envoie au capitaine du bateau qu'il espère encore prendre pour retourner en Abyssinie.
Voilà. Ouais. Et sois heureux s'il t'est permis de respirer après une douleur, et bien heureux si de toute douleur la mort te guérit, de Giacomo Leopardi, l'homme du pessimisme intégral.
Ah oui, 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 mais en même temps, tout de même un Italien, donc le pessimisme en Italie est peut-être un peu plus souriant, en tout cas un peu plus facile à accepter.
Vous comprenez, Justine Beau, aussi cette idée d'une morale, non pas que l'écrivain soit moralisateur, mais le besoin d'une morale, parce qu'il y a dans votre « Si nous ne brûlons pas », alors là où il y avait du théâtre, une structure théâtrale chez Philippe Claudel, une structure de manifeste en fait chez vous, je ne vais pas dire générationnel, je déteste cette expression-là, mais de structure de manifeste et aussi l'idée de réveiller un peu les choses, d'être dans une forme de pureté peut-être.
Oui, pureté c'est un très très beau mot qui sans doute me convient plus que morale en fait.
Attention, elle est dangereuse la pureté.
Mais c'est pour ça que c'est un beau mot. Parce que la morale, mais en fait d'une certaine manière j'ai l'impression que la réponse est un petit peu dans votre incipit. Vous dites, j'ai plus la phrase exacte, mais comment les temps futurs vous jugeront. Et je crois que ça c'est peut-être plus fort que de parler de morale, parce que ce serait faire référence aussi à des contextes, des paramètres, des sensibilités qui sont peut-être différentes selon chaque individu. Et rêver d'une morale universelle, c'est très bien, mais je pense que c'est très compliqué dans les faits. Et puis, ça pose tout un tas d'autres...
Mais comme romancière, justement, comme écrivain, est-ce qu'on peut pas essayer d'approcher ça ou d'une morale propre qu'on essaie de transmettre peut-être au lecteur? Et la phrase de Philippe Claudel, c'est « Comment les siècles futurs jugeront-ils votre temps ?»
Dans ces cas-là, je pense qu'on en revient à la recherche de la vérité, en fait. Et c'est pour ça qu'on peut encore parler de pureté, c'est-à-dire chercher à... On parlait des tréfonds, chercher à creuser le plus possible et mettre les hommes face à ce qu'il y a de plus profond en eux, et donc les mettre face à leur conscience.
Mais si je puis me permettre, moi, il y a une phrase que je cite souvent, donc j'ai l'impression un peu de me répéter, mais comme disait Gide, tout a été dit, mais comme les hommes n'écoutent jamais, il faut toujours répéter. C'est la belle phrase de Renoir dans La Règle du jeu. Hein. Tu sais, ce qui est effroyable dans ce monde-là, c'est que tout le monde a ses raisons. Donc une fois qu'on a dit ça, j'ai failli la remettre aussi en exergue, celle-ci. Ouais. Hein. C'est vrai que chaque personnage qui agit a ses raisons de le faire. Au nom d'une forme de croyance intérieure qu'il a. À partir de ce moment-là, si toutes les raisons cohabitent et s'affrontent, où est la morale? Enfin, comment faire émerger une morale générale ou globale? C'est pas possible.
On va continuer avec vous, Justine Beau, et explorer, plonger au tréfonds de ce « Si nous ne brûlons pas », donc votre quatrième livre, déjà, à 28 ans. On écoute d'abord votre choix musical, vous avez choisi Chromatics, Into the Black, pourquoi?
Oui. Ouais. Alors c'est une reprise de Neil Young en réalité, j'ai ce défaut de beaucoup aimer les reprises, j'adore cette chanson.
Ça va bien
chanson.
Avec ce que disait Philippe Claudel, on reprend sans cesse.
Absolument, et la recréation permanente. Et j'aime énormément les paroles de cette chanson qui dit... It's better to burn out than to fade away. Donc, mieux vaut brûler, mieux vaut se consumer plutôt que de disparaître.
De s'évanouir, presque. On écoute Chromatics, Into the Black.
Vous écoutez France Culture, Le Temps des Écrivains, par Christophe Unodibio. My hey.
the Black de Chromatics. C'est le choix de Justine Beau qui publie Si nous ne brûlons pas aux éditions des Équateurs. Elle est avec nous dans ce studio. Et Philippe Claudel qui publie L'archipel du chien. C'est chez Stock. Voilà, Out of the Blue, Into the Black. Vous disiez Absolument. Que vous aimiez les paroles de cette chanson. On est totalement dans vos univers là.
Et j'aime énormément aussi le jeu de mots out of the blue into the black, donc out of the blue en anglais, ce qui survient soudainement sans qu'on puisse le prévoir. Et j'ai une obsession pour le bleu, donc cette chanson réunit tout ce qui me passionne.
Et out of the blue, comme vos migrants aussi, échoué Philippe Claudel dans L'archipel du chien. Si nous ne brûlons pas, Justine Beau, donc c'est votre quatrième texte. Après, alors j'avais eu le type qui voulait arrêter de mourir, qui racontait comment un écrivain qui avait fait croire à sa mort se retrouvait à se vendre mieux mort que vivant. Et donc, devait tout faire pour continuer à être vivant, pour écrire comme s'il était mort. Changement de ton avec ce nouveau roman, puisque vous retracez l'itinéraire d'une jeune femme qui porte votre prénom. On va y venir, à Sade. Née comme vous dans une ville de province, bordée par la mer a au moins le mérite de désigner un horizon. Oui. Quand même, la narratrice n'a de cesse de vouloir s'extraire du milieu social modeste où elle a grandi, pour s'affirmer, pour tester aussi sa liberté de choix dans la vie qu'elle entend mener. Et d'arpenter des territoires, on a beaucoup parlé des territoires, ces migrations à elle qui vont la conduire de Paris à Damas, de Ramallah à New York, sur quelques champs de bataille très urbains aussi. Vous parlez des attentats de novembre 2015. En fait, cette histoire de prénom, vous y faites vous-même référence justement à Sade. Je vous cite, à 17 ans, je lus enfin la Bible de mon existence. Le portrait de Justine me fut insupportable. Justine débile, Justine crédule, insouciante, pieuse jusque dans ses orgies avec les moines les plus lubriques qu'il eût été possible d'imaginer. Justine indulgente et passive qui violait toutes les une page et demie environ en redemande. Les deux sœurs me semblèrent également assujetties au dénominateur commun d'un masculin fantasmé. Tout aussi vampirisant que cette féminité surréelle qui poussait l'une à la prostitution et l'autre à l'esclavage. Comment vit-on, surtout quand on écrit, qu'on choisit de prendre ce prénom-là pour votre narratrice et ce prénom-là de le garder comme auteur, comment vit-on avec un écho de ce prénom-là dans des pages qui vous révulsent ?
J'adore ce prénom. Il se trouve que cette histoire est... C'est une histoire qui m'est arrivée, c'est-à-dire que mon père avait décidé, quand il avait 16 ans, d'appeler sa fille Justine. Il a hésité avec Juliette, mais il s'est dit, on va prendre la vertu, plutôt. Et donc, quand moi, à peu près au même âge, j'ai lu le livre, je me suis dit, mais quand même, elle se fait quand même beaucoup violer, cette Justine. C'est un petit peu inquiétant. Et en même temps, d'abord, c'est magnifique de s'appeler d'une certaine façon, à partir d'une référence littéraire. Et surtout, ce qui m'a beaucoup... intéressé, ça a été de revenir à l'étymologie du mot vertu, qui est le mot que Sade associe à Justine et qui vient du mot wir, donc l'homme. Donc ça m'a fait beaucoup rire de retrouver un écho qui est peut-être contradictoire avec ce qu'on a pu voir dans cette héroïne de Sade, qui est la quintessence du fantasme de la féminité parce que faiblesse, parce qu'elle se fait maltraiter et qu'en plus elle en demande.
On va vous entendre, là c'est moi qui ai lu, mais je voudrais qu'on a parlé beaucoup de l'Incipit avec Philippe Claudel. Je voudrais qu'on vous écoute lire justement les premières lignes de Si nous ne brûlons pas.
À l'épreuve du vide, j'appris à ne me fier qu'au territoire. Il est la seule matière, l'unique élément de la vie des hommes. Je me méfie du récit des origines, des sociologies, des familles. J'accorde peu de crédit au mythe de l'éducation et aux affres du travail. Mais je crois absolument à la Bible que nous livrent les territoires. J'ai longtemps haï la glaise de ma naissance. Il m'a toujours semblé que mon inertie incurable provenait de ce sol sablonneux, où, privé de toute emprise, je tentais de m'agripper coûte que coûte à la poussière. Je n'ai pas 30 ans que déjà je suis en pièces. À bâtir avec tant d'impatience, on se détruit. On néglige ses fondations. L'eau gagne. Les drains se gangrènent et puis on sombre. Ironie de l'ombre qui a parcouru le monde pour épuiser de la lumière. Elle se grise. Pourtant, quel cœur j'ai mis à l'entreprise. Partir, toujours, au-devant de moi, en dehors de moi, traquer tout ce qui ne me ressemblait pas pour devenir autre. Seulement, les égarements du voyage ne suffisent plus à masquer le vide. Celui-ci n'est pas dans le passé, il ne sert à rien de le fuir. Je n'ai eu de cesse de haïr l'avant, d'y échapper, de l'occulter. J'ai tout fait pour qu'il ne m'appartienne plus. Mon drame est d'avoir réussi. Aujourd'hui, je rêve de tout perdre pour revenir à ce spectre enfoui sous les bâtisses. Il me faut abattre l'édifice, retrouver la matière initiale pour comprendre ce que je suis devenue, faire l'état des lieux de mes errances pour savoir où je suis. Les colonnes de Palmyre, les vaisseaux de Bering, les nuits de perdition dans Paris, dans New York, toutes ces escales de ma jeunesse en seront les chutes. Elles reposeront au sol, une fois le récit de mes folies achevé. Je serai seule, nue, face à l'indigence de mes primes années. Et je ne pourrai plus ni mentir, ni m'abriter sous leur grandeur. J'ai à peine 27 ans, mais je suis vieille d'un millénaire.
Merci Justine Beau. Si nous ne brûlons pas, qui vient de paraître aux éditions des Équateurs, je le disais tout à l'heure, Philippe Claudel convoquait les structures du théâtre avec cet incipit où on entendait un chœur antique qui disait à ses hommes « Vous verrez, voyons comment les temps futurs jugeront vos actes ». Votre livre convoque plutôt la structure du manifeste, de l'état des lieux. Est-ce qu'il faut lire comme un manifeste ?
J'aime bien l'idée du manifeste parce que dans le manifeste, je crois qu'il y a la voix. C'est-à-dire que c'est une adresse, c'est une apostrophe. Et puis, il y a aussi une forme de violence dans le manifeste. C'est-à-dire qu'on pose un objet dans le monde pour essayer peut-être de changer ce monde. Donc oui, le manifeste, ça me plaît beaucoup, oui.
Qu'est-ce qu'elle fuit, votre Justine ? Et qu'est-ce qu'elle cherche à trouver dans ses voyages en Syrie, à New York, à Ramallah, parcourir justement un vaste territoire ?
Ah bah, la réponse aux deux questions est la même. Qu'est-ce qu'elle fuit, qu'est-ce qu'elle veut trouver elle-même ? Et donc, faisant cela, elle ne risque absolument pas de trouver ce qu'elle cherche, puisque elle cherche à la fois à se fuir parce que elle a l'impression d'être enfermée. En fait, elle cherche absolument à trouver une place. Et en même temps, en fantasmant tous les autres mondes qu'elle ne connaît pas, elle se condamne à ne jamais en avoir parce que elle se construit des mythologies. Elle s'imagine des territoires, elle s'imagine qu'elle va trouver quelque chose dans les gens qu'elle va rencontrer, et tout ce qu'elle s'imagine n'existe pas. Et c'est aussi pour ça qu'elle se recrée, c'est comme ça qu'elle se construit.
Elle va à New York et vous dressez de cette ville un portrait très sombre, d'ailleurs avec une référence au voyage au bout de la nuit. Je vous cite, d'autres voyageurs s'étaient émus de la raideur de la ville, pas baisante du tout, disait-il. Au contraire, elle m'apparaissait comme une vieille tapineuse, la toison fourbue des amants réguliers en croisade contre les occasionnels. Les signaux lumineux, les immenses panneaux publicitaires, les néons par milliers constituaient le make-up clinquant de la pute qui ordonne, qui soumet les timides et oblige les puissants. Elle nous baisait dans tous les sens et on raquait sans broncher. Il était magnifique de se faire prendre par New York. Évidemment, on pense à l'arrivée de Bardamu. Est-ce que c'est une manière d'inscrire votre héroïne, votre Justine, alors non plus là chez Sade, mais toujours de continuer la lignée là jusqu'à Céline ? Ou est-ce que c'est le simple plaisir de jouer avec la littérature et de les détourner ? On parlait de la reprise tout à l'heure de Neil Young par Chromatics, de faire une reprise aussi à votre façon ?
Oui, oui, c'est un peu des deux. Je pense que elle s'inscrit quand même, ce personnage s'inscrit dans la lignée d'autres personnages qui aussi se sont mis dans des situations de découverte, d'exploration et potentiellement de désillusion. Et en même temps, évidemment, c'est un jeu littéraire, ça m'amuse beaucoup. La métaphore sexuelle est toujours très très drôle à écrire. Donc, mais c'est aussi une façon de recréer justement. On parlait au début de territoire, de ville, des images.
D'errance.
Oui, et c'est aussi une façon vraiment de malaxer la langue pour donner à voir autre chose de cette ville-là.
Philippe Claudel.
Oui, non, mais ce qui est intéressant par rapport à tout ce que vient de dire Justine, et puis sur l'écriture aussi, c'est que la pensée et l'écriture est toujours palimpseste. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est à la fois d'être dans l'attitude du manifeste, comme vous l'avez très bien dit, c'est-à-dire quelque chose qui arrive à un moment en rupture, propose autre chose, s'érige contre, et éruptif aussi, mais en même temps, et de l'ordre aussi de la réécriture, c'est-à-dire de reprendre ce qui a été fait avant, cette glaise que votre héroïne haït, en même temps, c'est la glaise du golem, et c'est aussi quelque chose qu'on peut remalaxer pour créer d'autres créatures.
C'est intéressant ce que vous dites, Philippe Claudel, parce que précisément dans le livre de Justine Beau, il y a quelqu'un, alors il n'y a pas que la glaise que vous exécrez, il y a aussi un certain Bourdieu, puisque
fou.
Je l'exècre pas, oui. Mais bon.
Enfin, elle dit de façon assez ironique, les jours qui suivirent, je campais à la bibliothèque municipale parce qu'en fait, elle doit passer un examen oui. en fait qui concerne oui. portant sur un ouvrage de Bourdieu. J'y lus chaque page écrite par ce Pierre Bourdieu dont on m'avait dit qu'il connaissait mon destin avant moi. Donc comment la glaise allait finalement oui. qui ôtait toute possibilité de pétrir sa propre glaise pour se former soi-même,
mais
puisqu'il savait tout.
Mais la rencontre avec Bourdieu, je pense pour qui que ce soit qui a une histoire, et en fait c'est tout le monde sans doute qui résonne un petit peu avec ce qu'il a pu écrire, elle est évidemment éminemment passionnante, et en même temps elle est terrifiante parce qu'on se retrouve face à quelqu'un qui vous dit voilà, tout ce que tu as vécu jusqu'à présent, ça s'explique comme ça. C'est le principe aussi de la sociologie, de mettre des mots, des concepts sur des choses de notre existence pour lesquelles on n'a pas suffisamment de distance pour pouvoir les formuler. Et donc la rencontre avec Bourdieu, elle est forcément violente, et donc forcément on a envie d'être un tout petit peu ironique avec lui.
Et ce manifeste dont on parlait, finalement, c'est un manifeste pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs niveaux évidemment dans ce livre, mais vous le formuleriez comment en fait ? Manifeste pourquoi ? Parce que manifeste pour l'errance, manifeste pour une façon d'être chacun un moine girovague allant là, ça et là pour essayer de se trouver.
Je crois que c'est à la fois un tout petit peu plus précis, un tout petit peu plus vague que ça. En fait, tout à l'heure, vous parliez aussi du cynisme et du fait qu'on a l'impression d'être face à une époque qui rit un petit peu dans le vide. Et justement, moi, c'est quelque chose qui m'interroge beaucoup. Je parle aussi du cynisme et du fait de savoir si, oui ou non, il y a quelque chose d'indépassable dans le cynisme. C'est-à-dire, est-ce que le cynisme pourrait être le point de départ d'autre chose ? Je crois que c'est un petit peu la question que j'essaye de poser en fait à la fin du livre.
Je voudrais qu'on termine sur un mot. On a fait pas mal d'étymologie aujourd'hui. Il y a un mot, je vais pas lire le passage, il est très beau, mais il est très long, sur le checkpoint. En fait, ça
oui.
c'est un mot qui
oui,
aussi vient scander votre texte et vous parler du langage.
Oui.
Comme le checkpoint absolu. Et je voudrais qu'on termine là-dessus, sur cette notion de. Évidemment, quand on dit checkpoint, il y a du militaire, il y a de la barrière, il y a du risque mmh. aussi. Mmh. On est fouillé. Est-ce que, comme écrivain, vous considérez le langage, celui que vous utilisez dans vos livres, comme, oui, le véritable checkpoint ?
Alors justement, moi, c'est ça qui me fait peur aussi, un petit peu dans le langage, et c'est pour ça que j'ai sans doute contracté cette maladie obsessionnelle terrible qui est de toujours aller chercher l'étymologie des mots, parce que je me méfie tellement d'eux que j'ai besoin de savoir d'où ils viennent, et ce qui est peut-être un mal de l'époque qui me fait très très peur. Mais ce qu'il y a d'intéressant justement dans cette idée de langage comme checkpoint, c'est que moi j'ai le problème de toujours me trouver dans des lieux où je vais utiliser le mauvais langage pour le mauvais lieu, quoi. Je tutoie quand il faudrait que je vous voie, et je vous vois quand il faudrait que je tutoie, enfin. Je pense que ça arrive à tout le monde. Et effectivement, la narratrice dans ce livre se rend compte de tous les checkpoints qu'elle a pu passer par rapport au niveau de langage par lesquels elle est passée. Et c'est vrai, on est souvent jugé par rapport à la façon dont on parle, et si on est en accord avec le milieu dans lequel on se trouve.
D'où tu parles ?
Oui.
Vous savez, c'est une très belle image, le checkpoint. Hein. Ça me rappelle le mot un peu brutal de Barthes qui disait que tout langage est fasciste parce qu'il force à dire. Mais enfin, ça revient un peu au même. C'est-à-dire qu'on est dans une espèce de tunnel, de couloir, et on est obligé de passer par là, de montrer patte blanche. Mais en même temps, ce qui est fascinant, c'est qu'on est dans une époque, effectivement, qui essaye de mettre des checkpoints partout dans le langage. Mais me semble-t-il, le rôle de celle ou de celui qui écrit, c'est de faire exploser ça et de sortir d'un carcan trop policier pour redonner à...
Policier ou policé ?
Les deux. Et de redonner aux mots et au langage cette espèce de liberté absolue qui ne devrait jamais abdiquer. Quoi.
Et puis je crois que c'est ça qui est intéressant, justement, c'est de faire un collage entre différents niveaux de langage, entre une langue peut-être poétique, une langue plus politique. En tout cas, moi, c'est ce qui m'intéresse dans la littérature.
Merci beaucoup. Du roman au théâtre, du théâtre au manifeste. C'était Justine Beau, Si nous ne brûlons pas, c'est votre nouveau roman aux éditions des Équateurs. Et Philippe Claudel, L'archipel du chien, c'est chez Stock. Merci à tous les deux.
Merci Christophe.
Merci beaucoup.
Le temps des écrivains, c'est Avril Ventura avec la complicité de Naïd Lancio, Jean-Christophe Francis à la réalisation, Jean-Michel Bernot à la technique. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter, podcaster pendant un an et réécouter de manière illimitée sur franceculture.fr cette émission sur l'errance, sur les territoires, sur les frontières et les checkpoints à exploser avec Justine Beau et Philippe Claudel.